pendant que vous êtes sur le terrain de camping, le terrain de baseball ou le terrain de frisbee, Boulevard est sur le terrain pour continuer de vous informer tout l'été de ce qui se passe dans notre ville. À Boulevard 102.1. Vous en profitez, on vous informe.
Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. En espérant que vous ayez passé une belle journée, quoique pluvieuse à certains endroits. Ce soir, encore une fois, ce sera pluvieux, minimum de 13 degrés. Aujourd'hui, avec l'humidex, on a atteint une température ressentie autour de 25-26 degrés. Demain, ça risque d'être plus frais, maximum de 19 pour ce qui est de demain. Une alternance de soleil et nuages avec des probabilités d'averse en après-midi à 40 %. Mercredi, ce sera une alternance de soleil et nuages avec un maximum de 20. Ciel dégagé, minimum de 8 degrés. Jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un 40 % de probabilité d'averse, maximum de 21 degrés. Et dimanche, en journée, ce sera une alternance de soleil et nuages, maximum de 18. Mon nom, c'est Marceau, je t'accompagne pour les 60 prochaines minutes. Et comme à chaque lundi, c'est l'ex-ministre de la Justice, Maître Marc Bellemare, qui sera avec nous. Je pèse sur le piton, puis ça part!
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Maître Marc Bellemare, comment allez-vous?
Ça va bien, vous, mon cher Monsieur Marceau.
Je ne sais plus si ça va bien, Maître Bellemare. Je me suis posé la question ce matin quand je me suis réveillé. Je regardais l'actualité et je me suis rendu compte que sur l'autoroute 40, autoroute que j'ai pris hier, soit dit en passant, en direction ouest, c'était fermé entre Berthierville et Lanoraie parce qu'il y avait un trou d'à peu près 15 pieds en plein milieu de l'autoroute. Je ne sais plus si ça va bien. J'ai peut-être failli mourir, Maître Bellemare. On aurait peut-être pu pas être ensemble ce soir. Ça m'aurait manqué, je pense.
Ben moi, dans ma carrière d'avocat qui représente les victimes de la route, je peux te dire que j'ai eu quantité de clients qui ont été blessés à cause de ce qu'on appelle l'incompétence du réseau routier. C'est des trous, des crevasses, beaucoup en moto aussi. Toi qui es un amateur de moto, tu dois bien le savoir. Des espèces de ourlets en plein milieu du chemin qui fait que la motocyclette se met à vaciller.
Ouais.
Des courbes mal signalées, mal évaluées. Mais moi, quand je regarde ce qui se passe avec l'autoroute 40, c'est sûr que ça donne des frissons parce que, comme toi, j'utilise cette autoroute-là souvent. Dans bien des cas, quand tu rentres par le nord de l'île de Montréal, quand tu vas dans le nord à Laval ou à Saint-Jérôme ou que tu veux rentrer par dans le quartier Saint-Michel ou tu veux rentrer par le nord de Montréal, de l'île, tu prends la 40, d'autant plus que souvent, il y a moins de monde sur la 40 que sur la 20. C'est moins populeux un petit peu. Il y a Trois-Rivières, Donnacona, Trois-Rivières, mais tu sais, c'est beaucoup des villages, Saint-Marc-des-Carrières, etc., Louisville, Yamachiche. C'est pas très populeux, donc ça roule un peu plus vite. Et là, tu vois cette espèce de trou-là que le vérificateur a vu de façon un peu fortuite, là. Je pense pas qu'il est en train de faire une inspection en règle samedi, là. J'ai pas l'impression que c'était le cas. Il s'est probablement de façon fortuite qu'il a découvert qu'il y avait un trou qui est pas d'une très grosse dimension au départ, mais qui signale la présence d'un problème très profond au niveau de l'autoroute. De sorte qu'ils ferment l'autoroute. Mais moi, ce qui me fatigue, puis ce qui me tanne, ce qui m'impressionne aussi, c'est le fait qu'on n'a pas réussi à réparer ça pendant la fin de semaine, parce que c'est samedi soir qu'on a noté ça, qu'on a décidé de fermer l'autoroute.
Exact.
Et comment ça se fait qu'au Québec, en 2025, dans une société dite civilisée, dans un pays qu'on dit riche, par rapport à bien d'autres pays, parmi les 192 pays de la planète, on n'est pas capable de réparer une artère routière majeure comme une autoroute où il circule des dizaines de milliers de personnes chaque jour. On n'est pas capable spontanément d'envoyer des pépines, puis des rouleaux, puis des préposés pour réparer le trou sur une autoroute. Comment ça se fait qu'on n'est pas, pendant la nuit, samedi à dimanche, ou dimanche dans la journée, qu'on n'est pas en train de réparer ça?
On n'a pas été
pour
très...
que la circulation reprenne au plus sacré. Comment ça se fait C'est quoi cette affaire-là? Les autoroutes n'ont pas le droit de briser la fin de semaine?
On n'a pas été très réactifs, effectivement. C'est environ 30 000 personnes qui passent chaque jour sur ce tronçon de route-là. Puis moi, je vous l'ai dit, je suis passé les deux jours, samedi et dimanche. Et c'était un peu le bordel, bien entendu, là, en raison du détour. Mais oui, la fin de semaine, ça semble être extrêmement compliqué avoir une équipe d'urgence pour réparer ces trous-là. Ce qu'on mentionne du côté du ministère des Transports, c'est que ce sera en raison de bris d'aqueduc. Mais dans ce secteur-là, il semble pas avoir ben de tuyaux. Est-ce que c'est les grosses pluies qu'on a connues dans les dernières heures qui a déplacé le matériel en dessous? Mais de Bellemare, entre 15 et 20 pieds, le trou en plein milieu de l'autoroute 40, ça aurait pu être extrêmement dramatique. Imaginez-vous les véhicules qui rentrent à 100, 120 km/h là-dedans. Ça aurait été un carambolage monstre, là.
Moi, j'ai un client qui s'est blessé gravement sur la route à la hauteur de Saint-Hyacinthe, sur l'autoroute 20. Il y a une voie ferrée qui passe là, il y avait une espèce de trou, là, puis c'est fait. C'est pas toujours documenté, puis c'est pas toujours médiatisé. Là, on s'est médiatisé parce que on est à la fin du mois d'août. Bon, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, on parle de ça, de ça, de ça. Mais très souvent, il arrive des accidents à cause de problèmes d'incompétence du réseau routier, que ce soit des routes secondaires ou des autoroutes. Moi, j'ai des clients qui sont blessés dans le parc des Laurentides parce qu'il y a des morceaux de route complètement qui sont partis. Rivière-Éternité, en juillet 2023, c'est exactement aussi ce qui est arrivé. Il y a eu deux morts, plusieurs blessés. D'abord, nos routes sont-elles construites en fonction du climat québécois? Comment se fait-il qu'à la lumière des changements climatiques, avec des pluies abondantes, un climat très incertain, très variable, très imprévisible, qu'on n'est pas capable de construire des meilleures routes que ça, et qu'on se retrouve avec l'autoroute 40, qui a été construite bien après l'autoroute 20, avec des vis de cette nature-là, dans une zone qui n'est pas populeuse. On est entre la Noraie puis Trois-Rivières, en tout cas Joliette, dans ce coin-là, là. Alors, comment se fait-il que Berthierville, une place où il n'y a pas beaucoup de monde, on ne peut pas dire qu'il y a une circulation démesurée, que ça se produit. Moi, ça m'inquiète beaucoup et ça me fait dire que, dans le fond, nos gouvernements ne s'intéressent pas à l'entretien du réseau routier. Ils s'en foutent. Il y a des viaducs qui sont déjà tombés dans la région de Montréal, puis là, on s'aperçoit qu'il y a des tronçons d'autoroute qui tombent. Et oui, c'est inquiétant, mais le manque de spontanéité dans la réparation, on ferme la route rapidement. Mais on répare pas le trou. Alors, ça va prendre quoi, une semaine avant que ça soit rétabli, là?
Bon, on a
Je trouve ça
mentionné
spécial.
aujourd'hui, on a travaillé extrêmement fort là-dessus, là. Ça, c'est les informations que j'ai, mais il va falloir qu'ils surveillent parce que, veut pas, un trou de 15 à 20 pieds qui s'est formé, j'imagine que l'eau a fait le travail parce que c'est pas bon, ça a creusé, là. Donc, il y a du matériel qui est parti. Donc, ils ont dû essayer de chercher la source du problème. Mais Maître Bellemare, la question que je vais vous poser, c'est que est-ce qu'on est rendu en 2025 à se poser la question? À savoir si la loi du plus bas soumissionnaire, c'est encore une très bonne idée pour nos réseaux routiers. Mais de Bellemare, on a été bâti, que ce soit dans les villes ou encore que ce soit dans la province, dans son entièreté, ça a été bâti sous la loi du plus bas soumissionnaire. Donc, la personne qui soumissionne le plus bas, et ça, ben, c'est l'entrepreneur ou ben, l'homme ou la femme qui désire faire un certain profit parce que veut, veut pas, tu te lances en affaires, pas pour perdre de l'argent, mais pour en faire. Donc, est-ce qu'on coupe les coins ronds à certains endroits? Est-ce que le matériel qu'on est supposé utiliser, est-ce que c'est du matériel qui est 100% efficace? Parce que, visiblement, t'sais, j'étais à Montréal en fin de semaine, j'étais à Montréal, j'étais à Québec. C'est le bordel partout sur la route. On n'a pas de route comme on peut retrouver en Ontario ou encore aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait que eux, dans leur cas, ça va bien et nous, ça semble être une catastrophe? Il me semble que le climat n'est pas si différent que celui de l'Ontario.
Oui, bien, notre climat, c'est sûr qu'on a un climat très aride, mais le Manitoba a un climat aride aussi, l'Alberta a un climat aride aussi. Colombie-Britannique, on n'a pas, en tout cas, à moins que là-bas, on ait des problèmes aussi, qu'on le sache moins. Mais il reste que moi, je trouve que c'est un test important, ce qui s'est produit sur l'autoroute 40. Et je sais que les oléoducs, par exemple, qui transportent du pétrole, du gaz naturel, on est en mesure de détecter des fissures sans nécessairement faire une inspection visuelle. Il y a des moyens technologiques aujourd'hui qui permettent de savoir si dans le réseau qui compose des milliers de kilomètres d'un oléoduc, on est capable de savoir s'il y a une fissure, s'il y a des produits qui percent la membrane, le tuyau de transfert. Alors, je suis un peu surpris de voir qu'ici, c'est un inspecteur de façon fortuite du ministère des Transports qui, par une observation visuelle, a constaté la présence d'un trou. Écoute bien, là. C'est incroyable, là. Alors, on n'est pas en mesure, dans notre réseau routier, surtout sur les autoroutes, de déceler un problème structurel sur la chaussée. Alors, ça veut dire que non seulement nos routes ne sont pas conçues et ne sont pas construites pour toutes sortes de raisons. Tu parles du plus bas soumissionnaire, probablement que c'est une partie du problème, mais on n'est pas en mesure non plus de détecter une défaillance importante, sensible sur le réseau routier sans inspection visuelle. Alors, ça veut dire que ça prend un coco là, qui va se promener puis qui va regarder s'il y a une craque ou s'il y a un trou, puis qui va être assez intelligent pour comprendre qu'il y a quelque chose qui est brisé en dessous du trou, de plus important que la grosseur du trou. Alors, ça fait tic quoi dans ta barnouche, là. Mais c'est vrai, le plus bas soumissionnaire, ça fait en sorte que nos routes sont construites par des entrepreneurs qui sont pas toujours les meilleurs, puis les devis et les conditions de construction des routes sont probablement aussi déficientes. On n'est pas en mesure de détecter ou de prévoir une déficience au niveau du réseau routier sur les autoroutes en plus. Imagine-toi dans les routes de campagne, les routes secondaires, à quoi ça peut ressembler.
Parce qu'à
Sur 60 000 km de route qu'on a au Québec, là, on a 60 000 km de route au Québec. Alors imagine-toi dans le fin fond de la Gaspésie ou du lac Saint-Jean, à quoi ça doit ressembler. Je pense que là, c'est encore pire, là.
Refaire toujours la même chose, on aura toujours le même résultat. À un moment donné, il va falloir qu'on se penche là-dessus. Mais le gouvernement a d'autres choses à gérer. C'est une catastrophe actuellement, la commission Galant pour la coalition Avenir Québec. On se rend compte à quel point on tient pas à grand-chose avec nos ministres qui sont passés au transport. Bonnardel qui ne se souvient de rien. Une Geneviève Guilbeault qui ne se souvient de rien. C'est un spectacle et de ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas hésité à mentir pendant la commission Galant. C'est assez gênant, là.
Oui, effectivement. Et moi, j'ai participé de très près à la commission Bastarache, comme tu le sais bien, il y a quand même plusieurs années, 2010. Et un témoignage devant une commission d'enquête, ça se prépare. En d'autres termes, tu dois, quand tu témoignes, anticiper les questions, tu dois prendre connaissance des documents, tu dois savoir ce qui s'est passé, tu as l'occasion de revisiter les courriels, de revisiter la documentation, les procès-verbaux des rencontres, parce que dans les cabinets et dans les hautes fonctions ministérielles, il y a dans les sous-ministères, les sous-ministres adjoints, il y a de la documentation. S'il y a un secteur dans lequel il y a de la paperasse, c'est bien ça. Encore aujourd'hui, c'est encore pire avec les courriels. C'est beaucoup plus documenté qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Alors, je vois M. Bonnardel qui se présente, pas préparé. Il y a une équipe, lui, de 25 personnes autour de lui, là. Puis, il y a pas juste le ministère des Transports dans le temps, le ministère des Transports d'aujourd'hui. Une équipe ministérielle, il peut avoir le soutien des avocats du ministère de la Justice, le soutien des hautes autorités de la SAC. Il arrive là, il sait rien, il n'a pas posé de questions, il ne sait pas quand est-ce que les rencontres ont eu lieu, il ne sait pas qui a parlé à qui. Monsieur Généreux, par exemple, qui est à son cabinet, qui explique des choses, il n'a pas l'air à savoir trop ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de transition entre lui et Mme Guilbeault, parce que quand un nouveau ministre arrive en poste, la coutume, c'est qu'il y a un briefing. Il y a un briefing par les hautes autorités du ministère des Transports, puis il y a aussi des discussions qui peuvent se faire entre collègues. Tu sais, Bonnardel qui dit à Guilbeault, écoute, on a un problème à la SAC, là. Il y a des coûts qui vont exploser. On était à 500 millions, on est rendu à 700 millions. Il y a un dépassement de coûts de plus de 200 millions. Ça risque d'être une patate chaude. Occupe-toi de ça. Pas de transit. Le commissaire Galant a l'air d'ailleurs très surpris de ça. Pas de discussion de transit pour présenter la problématique de la SAC. Et Mme Guilbeault, qui est la vice-première ministre du Québec, qui avait l'occasion de sauver la mise en présentant un témoignage intelligent et crédible, nous affirme que le problème de la SAC, elle l'a connu quand le rapport du vérificateur général est sorti en février 2025. Mais c'est tellement gros, là, c'est tellement un ballon de
Mais
plage, là.
ce qui est un mensonge, parce qu'elle avait écrit un
Tout à
courriel à
fait.
son premier ministre ainsi que son directeur de cabinet, comme quoi justement ce dit rapport du VG s'en venait et qu'elle allait, c'est pas vrai qu'elle allait ramasser toute la fameuse merde, là.
Ce merdier qu'elle dit.
Voilà.
Mais plus que ça, il y a un document de juin 2023, très clair, avec des chiffres, qui démontre qu'il y a un dépassement de coûts plus important que prévu. Je pense que c'est 204 millions. C'est quand même pas des peanuts. Elle est toute surprise qu'on lui présente ça. Mais comment ça se fait que dans la préparation, si préparation il y a eu, de son témoignage, ce document-là n'est pas sorti? C'est quand même pas un document exceptionnel. C'est un document qui est facile à retracer, qui lui a été présenté. Il y a des rencontres qui ont eu lieu. Je ne me souviens pas des rencontres. C'est tellement pitoyable que je te le dis, là, Yannick, je me demande comment ça se fait que l'opposition ne réclame pas des élections. Parce que ces témoignages-là sont tellement désastreux et démontrent une insouciance incroyable par rapport à la gestion des fonds publics. Et quand je regarde ce gouvernement-là qui nous présente un déficit de quelques 11 milliards, avec un premier ministre qui vient du monde des affaires, qui nous avait promis la rigueur budgétaire, la rigueur financière, et je regarde ce qui se passe dans quoi? Le ministère des Transports, c'est le troisième ou quatrième plus gros ministère au Québec. C'est immense, c'est énorme. Madame Guilbeault, qui est supposée être la vice-première ministre, donc une femme compétente, nous montre finalement que les finances, ça ne l'intéresse pas. Les déficits, ça ne l'intéresse pas. Elle ne prend pas connaissance des documents, autrement que dans une commission d'enquête. Elle lit pas les documents, elle s'intéresse pas aux documents qu'on lui présente. Il y a personne dans son cabinet qui s'y intéresse véritablement. Et ce gouvernement-là, qui est censé s'occuper de nos finances et des taxes importantes qu'on paye au Québec, en réalité, on s'aperçoit que ça ne l'intéresse pas. Et on en a la preuve par 2 plus 2 à travers le témoignage de Mme Guilbeault. Et je pense que l'opposition va devoir commencer à réclamer des élections. Parce que ça marche pas, ce gouvernement-là. Puis j'ai l'impression que ça va de mal en pis. Au niveau budgétaire, on s'aperçoit qu'on est dans le trou. On est décoté comme société, comme gouvernement. Et avec ce qui se passe là au niveau de la SAC, c'est pitoyable. Et j'ai l'impression qu'on va commencer à parler d'élections l'automne prochain. Peut-être que le PQ a pas toute sa gang de candidats, puis les autres partis non plus. Qui sont peut-être pas en mesure de le réclamer, mais j'ai l'impression que ça s'en vient. Parce que l'automne 2026, la façon dont ça se présente, on a l'impression qu'on va être dans un gouffre financier encore plus important avec ce gouvernement-là et ces gens-là qui sont des piliers de ce gouvernement-là puis qui savent pas compter ou qui veulent pas savoir compter. Parce que ne pas regarder, ne pas poser des questions dans une situation aussi problématique, c'est pareil comme être des fautes. C'est une faute que de ne pas s'intéresser. La job d'un gouvernement, c'est de poser des questions. Puis la SAC a un ministre responsable qui est le ministère des Transports de Mme Guilbeault. Donc, on s'aperçoit que depuis 2022, finalement, il n'y a jamais personne vraiment. Puis même Bonnardel était là avant 2022, avant l'élection de 2022. On a l'impression qu'il n'y a personne au ministère des Transports au niveau des élus, puis il n'y a personne d'imputable en plus.
Maître Bellemare, moi, ce qui me flabbergasse dans ce dossier-là, c'est qu'il y a des gens qui, visiblement, ont été mis à la tête de ces ministères-là. Un gars comme François Bonnardel, qui était propriétaire de Vitro Plus, qui, là, se ramasse avec un ministère qui est immense, il doit gérer des milliards de dollars. Puis, visiblement, il semblait dépassé. Geneviève Guilbeault, qui a son certificat en communication, qui a été pour le coroner, qui était porte-parole du coroner, puis pouf, se ramasse vice-première ministre du Québec, elle se ramasse avec le ministère des Transports, elle semble débordée. Pourquoi on n'est pas capable, puis là c'est vraiment mon petit bagage de préjugés, mais pourquoi on n'est pas capable d'aller chercher des top guns, des hommes et des femmes qui ont dirigé des entreprises de plusieurs milliers d'employés? C'est-tu le salaire? C'est-tu parce qu'on se dit, bien, la démocratie fait en sorte que quelqu'un qui, je sais pas, moi, était concierge dans une école, même s'il n'a jamais rien géré, il a juste à se présenter. santé, puis il va pouvoir peut-être être ministre s'il est capable de bien parler puis qu'il se présente bien. C'est catastrophique. Pourquoi on a des gens qui ne semblent pas être à la hauteur de leur ministère?
Mais tu te souviens, dans le temps de Philippe Couillard, il y avait une équipe financière. Il y avait M. Letao, il y avait M. Coiteux. Il y avait une équipe financière de deux, trois ministres importants qui provenaient du monde des affaires et ça avait donné de la crédibilité à M. Couillard pour l'élection de 2014, ce qui avait permis d'obtenir une majorité. Quand on a vu en 2018 M. Legault se présenter, moi j'ai voté pour M. Legault en 2018. Parce que d'abord, on se débarrassait des libéraux sur les questions identitaires, puis sur des questions linguistiques, mais en plus de ça, on avait un homme d'affaires à la tête du gouvernement. Alors, on avait eu des avocats avec Charest, on avait eu des médecins avec Couillard, et là, on s'est dit, il est temps qu'on fasse le ménage des finances publiques. Et pour moi, M. Legault, c'était l'incarnation de l'homme d'affaires. Air Transat, développement de cette entreprise-là importante, un fleuron de l'aviation au Québec, au Canada. M. Legault, qui est un homme d'affaires, qui disait, moi, je veux des jobs payants au Québec, etc., je veux contrôler les finances. Ça m'a inspiré confiance et ça a été la principale raison pour laquelle j'ai voté pour M. Legault. Et là, il y a eu le mandat pandémique, là, on va l'appeler comme ça, 2018 à 2022, où le gouvernement était plutôt sur le break, on ne s'occupait pas trop de ce qui se passait en dehors de la pandémie qui était omniprésente. Et c'est ce qui a permis à M. Legault d'aller chercher quelques 90 députés à l'élection de 2022, notamment parce qu'il avait fait une bonne gestion de la crise selon les électeurs, surtout les plus âgés. Donc, il était vu comme un premier ministre paternaliste qui s'est bien occupé de la santé des Québécois. Les finances, c'était très secondaire. Mais là, en 2022, ça devient prioritaire et on s'aperçoit rapidement qu'il y a des déficits un peu partout qui augmentent. Et là, on s'aperçoit que le déficit du Québec, c'est une chose, mais il y a aussi des déficits d'opérations dans les sociétés d'État comme la Société de l'assurance automobile du Québec. Et de voir que ce gouvernement-là, qui est censé être versé dans les affaires, commet autant d'erreurs dans la gestion des fonds publics, c'est catastrophique et c'est une grande déception. Pour moi, comme pour, j'imagine, des milliers, des millions de Québécois. Et la prochaine élection, j'espère que la question des finances publiques va prendre le dessus. Parce que le Parti québécois, qui a le vent dans les voiles actuellement, a une équipe intéressante. Je pense à Pascal Bérubé, je pense à Pascal Paradis. C'est des politiciens de talent, mais où sont les comptables, où sont les gens qui vont s'intéresser aux finances publiques? Et ça me préoccupe. Parce que je regarde aller ça, c'est certainement pas Québec solidaire qui va assurer le respect de l'équilibre budgétaire au Québec. Mais du côté du Parti québécois, je pense que là, il y a comme une obligation d'aller chercher dans son équipe de candidats des gens importants au niveau comptabilité. Parce que sinon, là, on va avoir un Québec qui est pas géré, qui est mal géré, et des saclés qu'on va en avoir partout au gouvernement. Parce que là, je sais que le ministère de la Justice a annoncé ces jours-ci qu'il allait reporter son programme numérique, là, parce que s'il y a un secteur qui doit être numérisé, c'est bien le secteur de la justice au Québec, surtout de la justice criminelle. Et là, on apprend ce matin dans l'actualité que le projet est reporté de 4 ans. Tu comprends bien que la CAQ n'a pas besoin d'avoir un autre scandale comme ça, parce qu'à un moment donné, les gens vont se dire tout ce qui s'appelle informatique est tout croche au gouvernement. Ils ne sont pas capables de gérer l'informatique, ni les finances publiques en plus. Mais ils reportent ça pour ne pas avoir à supporter d'autres scandales de ce type avant les élections prochaines. Mais il reste qu'on prend du retard au niveau de l'informatisation de nos services, santé, justice, transport. On prend du retard et il y a des millions déjà qui sont investis là-dedans. Et moi, ça m'inquiète au niveau des opérations, parce que là, par rapport à l'Ontario, l'Alberta, puis les États-Unis, puis l'Europe, On va vraiment être au Moyen Âge numérique, là, si on continue de reporter des programmes.
Mais les ministres semblent dépassés, ne semblent pas être compétents dans les ministères qu'on leur a donnés. Bon, quand on pense à la justice, vous avez été ministre de la justice. Bon, on prend des avocats, des gars et des filles qui avaient les mains dans Poutine puis qui connaissent la recette pour justement la recette du droit. Là, dans ce cas-ci, on met à peu près n'importe qui, un Éric Kerr qui a un diplôme de carton en informatique. On a une Nathalie, no ben, voyons, Nathalie Normando, pauvre elle. On a une Geneviève Guilbeault. On a un François Bonnardel qui, eux autres, ben, François Bonnardel avait un vitraux plus. Geneviève Guilbeault avait un bac en communication. Visiblement, ces gens-là sont pas capables de gérer leur ministère, puis ils doivent faire confiance à des gens qui disent être capables, des sous-ministres et tout ça. Mais c'est-tu le salaire qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'attirer des gens qui sont des top guns dans leur domaine? Est-ce qu'on pourrait pas, je sais pas moi, augmenter les salaires, c'est-à-dire, bon, ben, tu as été embauché, tu as été choisi comme député par la population, donne-moi tes 5 meilleures années, puis nous, ben, on va te donner ce salaire-là pendant 4 ans. T'sais. Si tu gagnais 1 million par année, ben, on va te donner 1 million par année. Ça va peut-être inciter des gens, peut-être un peu plus experts dans leur domaine, à se lancer en politique plutôt que des gens qui acceptent des jobs parce qu'ils sont des bons porte-parole.
Oui, mais c'est pas juste une question de revenus, Yannick, c'est une question de compétences. Et dans l'équipe de
Ben,
M. Legault.
Souvent, ça vient avec, là. Un gars comme Christian Dubé, c'est un gars qui gagne un million de dollars par année. Lui, c'est un don de soi d'aller en santé actuellement. Là.
Oui, effectivement, mais Dubé, il y a un ministère qui est le ministère de la Santé qui va chercher à peu près la moitié de nos impôts, la moitié du budget québécois. Mais je pense que Dubé, au transport, aurait fait une meilleure job que Mme Guilbeault. Être une bonne communicatrice, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire qu'en dessous de la communication, il n'y a pas des problèmes de compréhension,
Exact.
De gestion puis d'administration. Et moi, j'ai l'impression que si on envoyait Geneviève Guilbeault au transport, c'est justement pour qu'elle puisse gérer au plan communicationnel seulement des dossiers chauds, comme le troisième lien, le tramway à Québec et la SAC. Probablement que c'est pour ça que M. Legault l'a mis là. Une espèce de gestionnaire de crise. Donc, quoi dire, comment réagir aux médias pour donner l'impression que tout va bien? Pas faire en sorte que tout va bien, mais donner l'impression, parce que les communications, c'est beaucoup une question de perception, une question d'impression. Alors, on envoie Mme Guilbeault pour gérer le troisième lien, c'est une catastrophe. Le tramway de Québec, c'est aussi une catastrophe. D'ailleurs, tu te souviendras de son passage comme ministre responsable de la région de Québec, ça a été une catastrophe. Je pense que c'est M. Villeneuve qui avait dit que c'était la pire ministre responsable de la région de Québec qu'on ait eue à Québec. Et je pense qu'il a pesé ses mots. Ça clique, on voit ce que ça donne. Donc, Mme Guilbeault n'a pas la compétence, ni au plan numérique, ni au plan comptable, administratif, pour gérer le ministère des Transports. Et M. Legault doit en prendre acte. Et il doit opérer une certaine rétrogradation au niveau du Conseil des ministres qui va présenter bientôt, parce qu'il y a un remaniement qui s'en vient, semble-t-il, dans quelques semaines. J'espère que M. Legault a compris le message, pas compris que sa vice-première ministre n'est pas à la hauteur des
Mais
attentes.
ça va être une catastrophe pour elle, là. Je veux dire, on l'a montée
Ça va être...
très
Oui.
rapidement. C'était une vedette montante quand elle a gagné ses élections. C'était une élection partielle. Elle était enceinte. C'est une femme qui est extrêmement intelligente, mais visiblement, elle n'a pas le CV nécessaire pour gérer ce genre de ministère-là. Et là, on s'en rend compte. Mais elle, pour sa carrière, puis on le voit aussi dans la lettre qu'elle a envoyée à François Legault, elle parlait de sous-ministre qui avait des jobs à vie, puis elle s'inquiétait un peu pour la suite de sa carrière. C'est une carriériste, Geneviève Guilbeault. Elle veut pas se faire sacrer dehors, là. On l'a mis vice-première ministre du Québec, et là, on lui a enlevé à peu près tout ce qu'elle avait, et il reste ce ministère-là, puis elle va devoir être rétrogradée parce que visiblement, ça ne fonctionne pas non plus. Pour elle, c'est une catastrophe, là.
Oui, avec ce qui s'est produit au transport, elle ne peut pas aller à la santé, elle ne peut
Ben non.
pas aller à l'éducation, je ne penserais pas. Elle ne peut pas aller dans un ministère important. Solidarité sociale, c'est la même chose, parce que c'est très comptable aussi. C'est une portion importante du budget du Québec. Encore là, Solidarité sociale, c'est le troisième, quatrième ou quatrième ministère en importance au plan budgétaire au Québec. Alors, il va l'envoyer où? Au tourisme? Il va l'envoyer dans un ministère marginal? Je ne le sais pas. Mais il faut que Mme Guilbeault descende de son échelle, parce que s'il continue de la maintenir front, S'il continue de la maintenir en très haut niveau de responsabilité politique et administrative, il va devoir en payer le prix. Et là, la dernière chance, c'est là. Ça y prend une nouvelle équipe, ça y prend du nouveau monde. Et en 2022, je pense que c'est 90 députés qu'il y avait eu. Je peux pas croire que dans cet énorme potentiel, cet énorme bassin de candidats, il n'y a pas des députés qualifiés au niveau finance. Il faut qu'il y ait une dominante dans le prochain Conseil des ministres de François Legault, et cette dominante-là doit être au niveau comptable, au niveau administratif. Il doit nous arriver avec des gens qui savent compter, des gens qui savent administrer. Et c'est là son défi, parce que Bonnardel a échoué, Guilbeault a échoué, et ça prend des gens là qui vont être qualifiés au niveau finance. Il y en a dans son Conseil des ministres, il va falloir qu'ils trouvent, il va falloir qu'ils leur fassent confiance et que sa formule jusqu'à maintenant soit réévaluée, parce que les communications, même si Bonnardel puis Guilbeault ont des talents de communicateurs, c'est sûr, ils ont été dans les positions tous les deux avant l'élection de 2018. Bonnardel, c'est un très bon communicateur, c'est un homme charmant, mais encore là, il a échoué dans le dossier de sa clique. Alors, tu peux pas mettre des ministres qui ont une étiquette d'incompétence administrative, pas posé les bonnes questions, pas pris connaissance des courriels, pas pris au sérieux la situation financière de la SAC, malgré les signaux très clairs comme quoi il y avait un dépassement de coûts majeur. Tu peux pas mettre ces gars-là et ces filles-là dans des postes importants dans le prochain Conseil des ministres. On verra bien, mais je pense que M. Legault a compris le message. Il va falloir qu'il parle de cents puis de piastres aux Québécois dans la prochaine année, puis qu'il dise comment il va faire pour contrôler les finances, comment il va faire pour faire en sorte que ce type de dérapage administratif ne se produise plus au Québec. Et là, ça va prendre des nouveaux visages, pas juste des chaises musicales, mais des nouveaux visages, des nouvelles personnes. Tu sais, on a vu Mme Fréchette, par exemple, quand Fitzgibbon est parti. Mme Fréchette, c'est un nouveau visage.
Oui.
Elle est arrivée là, puis elle fait quand même un bon travail. Il faut faire confiance à du monde. Il faut qu'ils prennent des risques, M. Legault, avec de nouvelles personnes. Et ça va donner. Les Québécois veulent du changement. Va falloir que M. Legault leur donne du changement dans son prochain Conseil des ministres. Il va falloir qu'on ait au moins 5-6 nouvelles personnes complètement inconnues du grand public qui vont accéder au Conseil des ministres et apporter une nouvelle rigueur.
Juste avant la pause, Maître Bellemare, est-ce que Legault va annoncer son départ en décembre, en janvier, ou il va finalement rester pour les prochaines élections et se faire ramasser? Ce serait une honte totale.
Moi, je pense qu'il va regarder sondage. Il va arriver avec sa nouvelle gang. Il va voir comment c'est reçu dans l'opinion publique. Qu'est-ce que les critiques, les éditorialistes, les journalistes en disent. L'opinion publique, les sondages. Il va laisser passer probablement les élections municipales qui sont quand même importantes. Ça va durer jusqu'à peu près la mi-novembre. Et là, on va avoir des nouvelles. Tu as raison. Décembre, on va savoir davantage à quoi s'en tenir, parce que s'il part, il va falloir qu'il l'annonce avant les fêtes pour permettre une course au leadership dans son parti. Est-ce que Mme Guilbeault y sera? On verra bien. En tout cas, si elle y était aujourd'hui, je pense qu'elle mangera une volée. Alors, on verra bien, mais s'il part, faut qu'il parte avant les fêtes, parce que sinon, il va être trop tard pour une campagne au leadership et permettre à son successeur ou sa successeur de se faire connaître et de préparer l'élection de l'automne 2026.
Exact. Maître Bellemare, vous vous promenez entre Montréal et Québec, entre Québec et Montréal. Êtes-vous un amateur de trottinette? Est-ce que vous êtes un trottinettiste, Maître Bellemare?
Non, mais je connais personne qui fréquente les centres-villes du Québec qui n'a pas vécu au moins une fois cet été, à peu de choses près, ce que Luc Boileau a vécu à Montréal. Moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir des trottinettes qui me passent à 6 pouces du nez, à une vitesse incroyable, et c'est devenu un fléau, mais ce que je pense, c'est que les policiers sont pas capables de gérer ça. Comment tu fais pour courir après un trottinettiste, toi, qui a brûlé un feu rouge? Bonne chance, surtout au centre-ville de Montréal. C'est impossible à gérer. Alors, on a ce
Ouais.
problème-là. C'est facile de constater qu'on a un problème parce que le réseau routier, les trottoirs, les bordures de route sont très, très sollicitées. Mais en même temps, comment tu fais pour faire respecter la loi? Alors, il est là le problème.
Il y a des trottinettes qui sont trottinettes manuelles, donc on y va avec le pied tout simplement, mais il y en a d'autres qui sont motorisées avec de l'électrique. Et il y a des trottinettes, Maître Bellemare, qui sont débarrées maintenant et qui peuvent aller à 70 km/h, Maître Bellemare, avec des petites roues, avec l'état de nos routes. Je trouve ces gens-là, ben, un courageux, mais c'est un manque total de jugement quand vous promenez à Montréal et Québec sur le trottoir avec des trottinettes qui peuvent aller jusqu'à cette vitesse-là. Puis oui, étant un gars qui reste au centre-ville maintenant, je peux vous confirmer que des trottinettes ou des petits engins électriques, là, des monoroues, je pense que ça s'appelle des gyroroues. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Maître Bellemare. Donc,
oui,
c'est juste
monsieur.
Une roue, c'est motorisé. Et là, il y a un gars qui est là-dessus avec son casque de moto. Ça roule au travers de tout ce beau monde-là. Je ne sais pas. Peut-être que si Québec n'intensifie pas peut-être sa sécurité concernant justement l'usage de ça, ben on aura. Ça va être le capharnaüm tantôt, là.
Non, mais c'est ça. C'est le problème, c'est qu'on n'est pas capable d'assurer le respect de la loi. On parle de 25 km maximum, porter un casque, circuler à droite de la route. Circuler dans la voie publique, parce que ce sont essentiellement les règles, sauf le 25 km, là, ce sont essentiellement les règles du vélo qui s'appliquent aux trottinettistes. Et par exemple, ils ne peuvent pas circuler sur les trottoirs à moins d'y être obligés. Par exemple, s'il y a des travaux routiers, s'il y a un bouchon, là, tu peux circuler sur le trottoir en trottinette, mais il y a des trottinettistes qui ne font que circuler sur les trottoirs. Et puis, toi, tu marches sur le trottoir tranquillement, puis à un moment donné, tu en as un, puis deux qui te passent à gauche, puis qui te passent à droite, à une certaine vitesse, mais va arrêter ces gens-là. Comment tu fais? Si la police voit une infraction dans un milieu urbain, parce qu'on comprend que dans les campagnes, ça dérange pas grand monde, parce qu'il y a moins de population, puis il y a de l'espace. Mais dans les villes, Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Chicoutimi, ça devient un enjeu important au niveau de la sécurité. Mais si tu constates une infraction, par exemple, un trottinettiste passe sur la rouge, c'est bien sûr que c'est illégal, comment tu fais pour l'arrêter? Tu pars après, un auto, ça va, là? Un auto, c'est gros, puis tu es capable de la retracer. Il ne peut pas rentrer dans une cour puis aller se cacher en arrière de la piscine, là. Mais un trottinettiste, là, c'est facile, ça ne pèse rien, là. Fait qu'il débarque de sa trottinette, il part à courir dans le centre d'achat. Comment tu veux le retracer? C'est une problématique et c'est la raison pour laquelle même les vélos sont très peu punis. Il y a des infractions au niveau des vélos. C'est plus facile à identifier, mais les trottinettes, c'est une problématique importante. Alors, on a beau avoir les lois qu'on voudra, à partir du moment où tu permets aux trottinettistes puis aux monoroues de se promener allègrement au Québec, tu peux mettre des règles, mais bonne chance pour les faire respecter, comme le 25 km/h. Comment tu fais pour faire respecter ça? Ils savent même pas à quelle vitesse ils roulent.
Ça prend du radar policier sur les pistes cyclables. Il y a même des vélos maintenant, des vélos électriques qui vont pratiquement aussi vite que les motos qui se ramassent sur les pistes cyclables. Maître Bellemare, ce qu'on me dit, moi, chez les policiers, là, c'est qu'il y a des gars qui perdent leur permis de conduire puis qui s'achètent ce genre de moto électrique là, qui ressemble un peu à un hybride entre les motos et les vélos, puis qui roule sur les pistes cyclables. Là. Et les policiers peuvent rien faire parce que ça prend pas de permis de conduire pour conduire ce genre de petit bolide-là. Donc, les gars le savent, puis ils le font débarrer. Fait qu'au lieu de rouler à 30, ils sont capables de rouler à 70 km/h. Puis ils vont travailler comme ça pendant un an, si possible. Là, si vous êtes dans le secteur de Montréal, c'est assez facile de le faire à vélo à l'année. Québec, ça dépend des jours là, pendant l'hiver parce qu'il y a de bonnes bordées de neige une fois de temps en temps.
Oui, c'est ça. Puis, tu me disais 60-70 km. Moi, on m'a dit que sur Amazon, on pouvait trouver des trottinettes où on vantait la possibilité de rouler jusqu'à 90 km/h. Alors, tu sais, c'est sûr que c'est pas parce qu'une publicité automobile dit que tu peux rouler à 160 km/h avec ta BMW ou ta Mercedes ou ta Porsche que c'est illégal. Tu peux annoncer des véhicules qui vont rouler plus que la vitesse maximale, comme par exemple 100 km/h au Québec, avec les lois qu'on a sur les autoroutes. Techniquement, On tolère jusqu'à 119, mais normalement, c'est 100 km/h le maximum. Alors, une trottinette, on peut vendre une trottinette, acheter une trottinette qui va aller à plus que 25 km/h. Puis le gouvernement ne peut pas empêcher ça. C'est juste par une surveillance importante qui va être capable de constater la présence d'une infraction. Mais moi, je fais beaucoup de vélo. Et il y a quelques semaines, dans la région, dans le bout du palais de justice, là, je roulais, je partais de Sillery, puis je m'en allais au chute de Montmorency. Et dans le bout de l'Englo, anciennement, là, la compagnie de papier, là, près du palais de justice, là, il y a un passage. Et j'ai traversé la rue sur le feu vert, mais c'était pas le feu cycliste. Et il y avait de l'autre bord une police qui était là, qui avait un chandail jaune, qui me dit, Monsieur, la prochaine fois, vous attendrez. J'ai continué mon chemin. J'ai pas arrêté, j'ai entendu ce qu'il m'a dit, mais j'ai continué mon chemin, puis je me suis posé la question. Je me suis dit, admettons que je suis passé sur la rouge, moi, là, puis que j'ai failli provoquer un accident. Comment il fait pour venir me chercher? Parce que lui, il s'en va dans l'autre sens. Moi, je roule pas pire en vélo, là. Tu sais, je suis assez bon. Alors, tu sais, puis je connais les coins, puis c'est ça. Comment il fait pour me retracer, pour me coller une étiquette, pour m'identifier? C'est toute une procédure. Comme je te dis, un véhicule automobile, c'est facile à intercepter. Ben, facile. Ou en tout cas, c'est plus facile parce que c'est gros. Ça pèse 2 tonnes. C'est volumineux. Même une moto. Ne serait-ce que par le bruit, tu vas être capable de retracer l'endroit où il est, où il circule. Mais un vélo, c'est difficile. Une trottinette, c'est encore plus difficile à cause du côté malléable de l'engin. Tu te promènes avec ça sur ton épaule, ça pèse quoi, une trottinette, là, 20, 30, 25, 30 livres, peut-être 40, là, c'est très petit.
Maximum. Quand il y a un moteur, je
Alors,
comprends, ouais.
le respect des règles, 25 km, et le reste, c'est essentiellement le vélo. Tu ne peux pas être deux sur une trottinette, tu ne peux pas aller sur un trottoir, tu es obligé de respecter le feu rouge. Tu es obligé d'arrêter au stop, tu es obligé de respecter toutes les règles que les vélos doivent respecter. Essentiellement, c'est ça la règle. Mais on n'a pas trouvé de solution à ça, puis je pense que ça va empirer. Parce que ce qui est arrivé au docteur Boileau à Montréal, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'affaire à dire, moi je suis le directeur de la santé publique, là. Mais en dehors de ça, il a parfaitement raison partout, là. En dehors de ça, il a parfaitement raison partout, là. Puis tu sais, il se fait couper le chemin par un gars qui circule à contresens, puis qui fait pas son arrêt. Fait pas son feu rouge. Alors, tu sais, ça peut pas être pire que ça, mais il y a personne, même au centre-ville de Montréal, qui surveille, parce que j'imagine que le service de police de la ville de Montréal se rend bien compte qu'il s'est devenu un fléau, puis ils sont pas capables d'en venir à bout, là. Va falloir trouver des solutions, peut-être des caméras, je ne sais pas, mais
Ce qui est
encore là, des caméras, comment tu fais pour identifier le gosse
Alors,
à cette trottinette, il n'est même pas plaqué.
ce qui est inquiétant, c'est quand on jase avec des médecins qui nous mentionnent que de plus en plus, ils ont des traumatisés crâniens en raison de ces fameuses trottinettes-là qui peuvent être modifiées ou pas. Il y en a qui font de la trottinette, qui ont l'impression que c'est tellement banal comme engin qu'ils n'auront pas de problème. Finalement, ben, ils se fracassent la tête, se ramassent à l'hôpital, traumatisés crâniens, puis là, ils embarquent dans le système de santé. Ils coûtent des centaines de milliers de dollars. Si ce n'est pas des millions de dollars pour ce qui est de toute la rééducation. Fait que oui, il va falloir que Québec se penche là-dessus, mais c'était pas un bel épisode avec le docteur Boileau, là, le directeur national de la santé publique. Je ne sais pas si vous, quand vous avez croisé le policier qui vous a dit « Monsieur, la prochaine fois, vous attendrez votre lumière », je ne sais pas si vous lui avez dit que vous étiez l'ancien ministre de la Justice. Avez-vous dit ça?
Non,
Tu
je n'ai pas parlé.
sais pas à qui tu parles. Toi, tu parles à l'ancien ministre de la Justice. J'étais son ancien boss.
J'y ai pas parlé, je l'ai juste entendu, mais tu sais, le fait que, pourquoi, par exemple, les ministres ont des chauffeurs? C'est parce que, on m'avait raconté, moi, en 2003, quand j'étais ministre de la Justice, que Claude Ryan, qui était à l'époque ministre de l'Éducation, je crois, avait eu un problème avec une automobile. Il conduisait lui-même son automobile, puis il avait eu quelque chose avec un autre automobiliste, puis, il y avait un risque que ce soit connu, puis qu'il soit mal à l'aise. Puis tu sais, quand tu es ministre ou quand tu es une personne influente du gouvernement, quand tu es une personnalité connue, tu n'as jamais le gros bout avec un citoyen, même si c'est un cabochon. Faut jamais oublier ça. Puis aujourd'hui, avec les vidéos, puis les téléphones qui prennent des images, puis qui prennent du son, c'est facile de se retrouver dans une situation compromettante. Puis ça, c'est sûr que les journalistes sautent là-dessus à pieds joints pour aller chercher une information croustillante, surtout s'il y a du visuel. Alors, l'affaire Boileau, évidemment, a fait des petits et on la retrouve partout aujourd'hui. Alors, pourquoi les ministres ont des chauffeurs? C'est justement pour éviter d'être pris dans une situation compromettante. Il m'a coupé le chemin, il a éraflé mon char, il est mal parqué dans le centre de... Alors, on se souvient de René Lévesque, à un moment donné, qui avait été impliqué dans un accident mortel où il y avait un
Exact.
sans-abri qui avait été tué. On n'a jamais su trop ce qui s'était passé. Mais depuis ce temps-là, depuis les années 80, les ministres sont obligés de se promener avec des véhicules et avec des chauffeurs, justement pour avoir cette espèce de séparation, si tu veux, entre l'erreur humaine potentielle d'un ministre qui s'est pas chauffé ou qui commet une erreur sur la route ou qui est dans une situation compromettante et le chauffeur lui-même qui assume les responsabilités puisque c'est lui qui est au volant. Alors, c'est pour éviter justement que les personnalités publiques se retrouvent dans une situation particulière. Monsieur Boileau, lui, évidemment, il n'y a pas de chauffeur. Il est piéton à ce moment-là. Ça aurait pu arriver à n'importe quel ministre de se promener à pied sur la rue Sainte-Catherine puis de vivre la même expérience. Mais au moins, sur la route, ils sont protégés par des chauffeurs qui sont susceptibles d'assumer l'odieux si jamais il y a un comportement répréhensible ou douteux sur la route.
Je vous rappelle qu'on parle avec Maître Marc Bellemare comme à chaque lundi. Vous avez des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST, c'est bellemareavocat.ca. On fait une courte pause et on revient.
Marceau, le soir. T'as ça, un ordinateur? Savais-tu que Boulevard 102.1 a une web radio?
Boulevard 102.1.
Écoute-nous en ligne. C'est simple et gratuit. BLVD.FM.
Ouais, 42 à l'ombre, ça le fait pas. Rafraîchis-toi avec une bonne bière de Chaloux. Plus de 1000 sortes en inventaire. Chaloux, Beauport et Saint-Émile.
C'est le moment de foncer chez Laval Volkswagen pour vous procurer un ID4 2024. Écoutez bien ça. On vous offre jusqu'à 17 500 $ de rabais, les taxes incluses, 5 ans d'entretien gratuit sur les éditions Pro et du financement très avantageux à 0 % pendant 72 mois. C'est du jamais vu. Ces offres sont valides jusqu'au 2 septembre ou jusqu'à l'écoulement de nos stocks. Ne manquez pas votre chance et venez nous rencontrer. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
Je veux faire avancer ma carrière. Bon, j'ai de l'expérience, mais il me manque un diplôme collégial.
Vous vous reconnaissez? Nous aussi, on vous reconnaît. Vous avez de l'expérience en informatique, en pharmacie, en administration, en supervision ou en gestion de la production? Obtenez votre diplôme collégial autrement, à distance, à votre rythme et tout en travaillant à temps plein. Atteignez vos objectifs professionnels avec la reconnaissance des acquis et des compétences du Cégep Limoilou. Voyez grand. cégeplimoilou.ca.
Naguère, chemin faisant sur la grande allée, un cavalier à vélocipède sans protection du chef filait à bride abattue. Au même moment, une fillotte fonça en trottinette alors qu'elle parlementait avec une personne invisible dans sa main. Je me disions, si ces deux énergumènes venaient à croiser un char de fer, il faudra faire des prières. Avec toutes ces nouvelles montures, partout le fief bataille, il faut surveiller son arrière-train.
Un message de l'intendance, de la Ville de Québec, qui vous rappelle qu'être colon sur la route, c'est dépassé.
Comme spécialiste en exploitation minière, en construction et en foresterie, nous avons le sens de la performance. Comme la performance que nous réalisons ensemble. Équipement SMS est bien plus qu'un distributeur de marques réputées comme Komatsu. Nous mettons notre expertise et nos technologies de pointe à votre service, jour après jour. Car avec le bon partenariat, tout est possible. Équipement SMS, partenaire de vos possibilités. Découvrez les possibilités à équipementsms.com.
Dévis, le plus grand chantier naval du Canada, recrute activement pour plus de 1000 postes. Peintre, assembleur mécanique, électricien, contremaître et bien plus. Avec un carnet de commandes rempli jusqu'en 2040 et des conditions de travail solides, ose le grandiose pour ta carrière. Postule à dévirecrute.ca.
Leclerc Communication ouvre un poste recherchiste-journaliste pour enrichir le contenu d'information de ces deux stations de Québec. Venez faire partie d'une équipe radio locale qui a l'information à cœur. Contribuez à alimenter le contenu de nos émissions de Week-end 91.9 et Boulevard 102.1 avec du contenu pertinent, percutant et exclusif.
Nous cherchons à renforcer notre équipe et la qualité de notre couverture journalistique. Vous souhaitez être au cœur des nouvelles de Québec, sur le terrain, en studio et sur les réseaux sociaux?
Vous pensez avoir ce qu'il faut? Joignez-vous à la meilleure équipe radio de Québec. Postulez dès maintenant sur carrière.fm.
Vente VIP exclusive chez Mercedes-Benz de Québec les 25, 26 et 27 août. Profitez d'un accès unique à des prix de liquidation sur nos démonstrateurs 2025 et nous reprenons tous les véhicules. Aucune offre raisonnable sera refusée. Découvrez aussi notre toute nouvelle salle de montre entièrement rénovée et pensée pour vous offrir une expérience encore plus exceptionnelle. 3 jours seulement pour profiter d'offres exclusives chez Mercedes-Benz de Québec, l'Étoile de Québec.
À l'Académie Saint-Louis, on joue, on expérimente, on se trompe, on recommence, on découvre, on progresse. On s'amuse à apprendre. On apprend à s'amuser. L'Académie Saint-Louis, la réussite se définit ici.
Les orthésistes du Pied de Québec, sur le boulevard Hamel, sont dépositaires des plus grandes marques de chaussures pour orthèse plantaire. Si tu as de la difficulté à te chausser, viens consulter les maîtres chausseurs. Le premier rendez-vous est sans frais. Piedquebec.com.
Profitez des rabais pour les groupes scolaires chez Canot Légaré. 60% sur les canots et 40% sur les kayaks, planches à pagaies et rabasca. Profitez-en d'ici la mi-octobre. Visitez Canot avec un S, légaré.com pour réserver. Canot Légaré, un coin de nature en ville.
102, la radio rock de la vieille capitale.
Ça, c'est ça. C'est
BLVD.
Boulevard. 102-1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Maître Marc Bellemare, juste avant la pause, tantôt, on parlait de trottinettes, les fameux trottinettistes là, qui commencent à être de plus en plus nombreux dans nos villes et villages. J'en ai pas encore vu sur les autoroutes, là, mais ça ne saurait tarder. 70 km/h, ça commence à rouler vite pour une trottinette modifiée. Comment ça se passe avec la SAAQ quand on fait un accident avec une trottinette? Est-ce que faut absolument faire un accident avec un automobile pour être dédommagé?
Il faut qu'il y ait un automobile qui soit impliqué. C'est un peu le même principe que les vélos, parce que les trottinettes ne sont pas des véhicules qui sont considérés comme tels par la loi sur l'assurance automobile. Les véhicules qui sont autorisés, qui peuvent, en cas d'accident, donner ouverture à des indemnités, c'est les automobiles, les camions, les pick-up, les motos. Mais un tracteur de ferme, par exemple, c'est pas un véhicule automobile au sens de la loi. Fait que si tu es blessé sur la route par un tracteur de ferme, tu ne seras pas indemnisé par la SAAQ. Une motoneige, c'est la même chose. Un quatre-roues et un VTT, c'est la même chose. C'est pas des véhicules qui sont destinés à circuler sur un chemin public. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas de temps en temps le faire, mais ils sont pas destinés à circuler sur un chemin public puis ils sont pas motorisés comme un véhicule standard. Fait que si tu es en trottinette, comme par exemple l'histoire du docteur Boileau à Montréal, le trottinettiste qui s'en vient en contresens, qui brûle un feu rouge, etc. Lui, s'il avait été blessé, là, mettons qu'il avait frappé le docteur Boileau, là, il n'aurait pas eu de recours au niveau de la SAAQ. Il aurait eu un recours contre le docteur Boileau, s'il peut prouver qu'il y a une faute, mais il n'aurait pas eu de recours pour réclamer des indemnités au niveau de la loi sur l'assurance automobile. Même chose si c'est deux trottinettes qui se frappent. Une trottinette qui frappe un vélo, c'est pas couvert. Une trottinette qui frappe un piéton, c'est pas couvert. Par la loi sur l'assurance automobile, ça veut pas dire que t'as pas de recours. T'as un recours civil au niveau des règles traditionnelles de responsabilité. Tu dois prouver qu'il y a une faute de la part de la personne que tu poursuis, qu'il y a un dommage et qu'il y a une relation entre la faute et le dommage. Alors, par exemple, si tu t'en vas en trottinette, tu es parfaitement dans ton droit, tu circules à droite de la chaussée, à une vitesse de 20 km/h, puis à un moment donné, s'il y a un automobile qui sort d'une cour de façon impromptue et qui fait en sorte que tu dévites ta voie puis tu te blesses, là, c'est un accident de la route parce qu'il y a un véhicule automobile impliqué, même s'il n'y a pas de collision. C'est le véhicule automobile qui est responsable de ton changement de direction subi, imprévu, et qui a causé une chute qui va entraîner un dommage corporel ou un traumatisme crânien, peu importe. Alors ça, c'est couvert, mais il faut qu'il y ait un véhicule qui soit impliqué. Si c'est un quatre-roues qui te coupe le chemin, si t'es pas couvert, si c'est une autre trottinette ou un piéton qui traverse de façon impromptue, à ce moment-là, qui cause ta chute, tu peux poursuivre le piéton si tu peux prouver qu'il est en faute. Mais si c'est toi qui es en faute, à ce moment-là, tu vas perdre ta cause. Et s'il y a 50 % de la faute au piéton qui traverse à une place où il ne doit pas traverser, puis 50 % de ton côté parce que tu roules à 32 km/h, à ce moment-là, le juge va faire ce qu'on appelle un partage de responsabilité, puis t'accorder simplement 50 % des dommages que tu réclames, puisque tu es toi-même responsable à la hauteur de 50 % de ton propre dommage.
Je réfléchissais tantôt parce que vous me parlez des trottinettes qui sont de plus en plus. On parlait de ça, qui sont de plus en plus sur la route. Fut un temps, je pense que c'est avant les années 80, parce que moi, j'ai commencé à prendre conscience que j'étais en vie dans les années 80. Là, je suis né fin 70. Et je me souviens d'avoir vu des vieux vélos avec des plaques d'immatriculation. Est-ce qu'on pourrait revenir à ça pour ce qui est des vélos qui sont sur la rue ou pour ce qui est des trottinettes qui sont sur la rue? Ça prend pour être sur la rue absolument des petites plaques d'immatriculation pour pouvoir vous identifier, que ce soit gratuit ou ben, un montant un peu banal. Ouais. Mais on
peut... Bonne idée. J'ai pensé aussi à ça. Moi, quand j'étais petit gars, à 12 ans, là, je vivais à Saint-Hyacinthe. Et à chaque année, on devait aller au poste de police pour aller chercher une plaque.
Voilà.
C'était une petite plaque de plastique qui était attachée. Le policier lui-même arrivait, puis il attachait la plaque de plastique avec une espèce de sangle de métal. Là. Et ça, c'était, tu pouvais pas arracher ça, là, à moins d'avoir toi-même un cutter. Là, tu pouvais pas arracher ça, mais ça coûtait 3 piastres. Tu avais une petite plaque en avant du vélo. Et ça permettait de retracer un vélo volé, par exemple. S'il y avait un vélo volé qu'il retrouvait dans le fond d'un fossé, à ce moment-là, il appelait puis il disait « On a retrouvé ton vélo, Yannick, là, à telle place, à Saint-Simon, près de Saint-Hyacinthe, puis là, ça te permettait. » C'est un peu ce qu'il disait. Mais en même temps, c'est une façon de ramasser un peu d'argent. Dans le temps, c'était 3 piastres. Aujourd'hui, ça pourrait être 100 piastres ou 50 piastres. Ne serait-ce qu'une façon d'identifier, parce que tu as raison, ces trottinettes-là sont tellement petites, tellement légères, tellement faciles à cacher, qu'en cas d'infraction ou même en cas de dommage, tu sais, je parlais tantôt là, d'un trottinettiste qui frappe un piéton là, puis qui le blesse sérieusement là, parce qu'il y a quelqu'un sur la trottinette. Il y a quelqu'un qui paye 150, 175, 200 livres sur la trottinette. Il y a la trottinette qui en paye 40, 50, là, mais il y a toi sur la trottinette. Fait que quand tu arrives sur un piéton qui s'y attend pas, ça peut causer une chute puis un dommage important. Alors, si tu veux retracer la personne qui a la trottinette, ben si elle est immatriculée puis que tu es capable de savoir que ça ressemble à peu près, l'individu ressemble à peu près, peut-être tu peux le retracer plus facilement s'il est enregistré. S'il n'est pas enregistré, à ce moment-là, c'est pas possible de le retracer facilement. Je te dis pas que ça serait toujours possible de retracer les individus, mais au moins on aurait des moyens un petit peu plus sophistiqués. Alors, ce sont les villes qui ont la charge de gérer le comportement des trottinettistes en vertu du Code de la sécurité routière. Alors, ce serait possible, bien sûr, pour les villes de charger quelque chose pour enregistrer toutes les trottinettes. Au moins, on saurait combien il y en a, dans quelle région, dans quel secteur. Et puis, on pourrait s'assurer de l'âge de la personne. Je pense que ça prend 14 ans pour circuler là-dessus. On s'assurerait aussi que la personne a l'âge requis pour pouvoir circuler, parce qu'il n'y a rien qui me dit, moi, qu'aujourd'hui, à 12 ans, là... sixième année, secondaire 1, je veux dire, t'as des petits gars qui pèsent 175 livres facilement, là, et qui peuvent passer facilement pour des jeunes de 16 ou 17 ans. Alors, il n'y a rien qui nous dit que c'est respecté aussi, là.
Effectivement. Maître Marc Bellemare pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST, c'est bellemareavocat.ca. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et on se reparle lundi prochain. Je salue
Parfait.
Les auditeurs.
Bonne semaine, Yannick. Oui. Bonne semaine, tout le monde.
Bye-bye.
Marceau, le soir.
C'est payant d'écouter Boulevard 102.1.
Restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour gagner votre paire de billets pour aller voir Deftones le 7 septembre prochain au Centre Vidéotron.
Boulevard 102.1.
Votre pocheur d'étiquette.
Il fait tellement chaud que t'as décidé d'amener les enfants à piscine municipale. Ouh, ça va te prendre une bonne bière de Chaloux en revenant. Plus de 1000 sortes en inventaire. Chaloux, Beauport et Saint-Émile.
En ce moment, chez Levy Ford, c'est la seule et unique promo des prix employés Ford. Profitez du plus bas prix de l'année sur tous nos modèles. Oui, tous nos modèles. Venez visiter le plus beau concessionnaire Ford de la région. Levy Ford, les forts de Levy.
Pour la fête du travail, Boulevard 102.1 vous ramène à l'époque des CD. Le spécial Big Shiny Tunes. Toute la fin de semaine, on se remémore l'époque des compilations bien avant Spotify puis les playlists. 1996 à 2009, 17 albums. Boulevard. Le spécial Big Shiny Tunes dans le Boulevard du Rock et le volume à planche. La longue
longue fin de semaine à Boulevard 102.1.
Le spécial Big Shiny Toons, présenté par Identité Québec et Laissez le passé derrière. Demande de pardon, vérification d'antécédents ou prise d'empreinte. Identité Québec à un clic de ta liberté.
Chez ExoShop, prépare ta rentrée avec style. Vêtements, accessoires, sacs à dos, tout pour te démarquer. Découvre les marques Butter, DC, Vans, Obey, Exo, Big Boy, Nike, Adidas et plus encore. ExoShop, la mode urbaine pour une rentrée stylée. ExoShop.com.
Tu travailles fort sur le chantier, mais t'as du mal à finir tes journées. La solution passe parfois par les pieds. Consulte les orthésistes du Pied de Québec sur le boulevard Amel. Prise en charge rapide, efficace et couverte par ton assurance collective. Piedquebec.com.
Sur les routes du Québec, pour chaque arrêt, il y a un village relais. Il y a Saint-Émilie d'Énergie pour recharger vos batteries. Ou la Guadeloupe pour un bain de soleil. Ou un bain tout court. Pour les petits creux, prenez une bouchée à Lac Bouchette. Et avant d'arriver à bon port, pose toilette à Port-Cartier. Pour le plein d'essence et d'amour, petit stop à Sacré-Cœur. Et en cas de mauvais temps, passez une belle longue nuit à Mont-Joli. Les villages relais du Québec, toujours une bonne raison de prendre une pause. Un message du gouvernement du Québec.
T'as manqué le début du dernier segment? Tout finit par se retrouver sur le blvd.fm.
Sur mes chantiers, j'ai assuré ma machinerie puis mes outils chez Beneva. Puis ils ont fait le tour de mes besoins. Tellement du bon monde. Ça m'a donné le goût d'être encore plus une bonne personne. Fait qu'à cette heure, sur mes chantiers, il n'y a pas une cantine, il y a 5 cantines. VG, vegan, keto, flexi quelque chose, puis un rack hot dog. La gang est bien contente.
Beneva. Bon monde, bon prix. Votre entreprise est bien assurée. Obtenez une soumission.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBAExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.